Lettre à Louise Collet. Il y a quantité de bourgeois qui me représentent le bouilli. Beaucoup de fumée, nul jus, pas de saveur, ça bourre tout de suite et ça nourrit les rustres. Il y a aussi beaucoup de viande blanche, de poissons de rivière, d'anguilles, d'éliers vivant dans la vase des fleuves, d'huîtres plus ou moins salées, de têtes de veau et de bouilli sucré. Moi, je suis comme le macaroni au fromage qui file et qui pue. Il faut en avoir l'habitude pour en avoir le goût. On s'y fait à la longue, après que bien des fois, le cœur vous est venu aux lèvres.
Et oui, quand Gustave Flaubert évoquait avec une certaine cruauté et quelques métaphores gastronomiques la médiocrité de la bourgeoisie et peut-être aussi sa propre médiocrité, c'était une lettre à son amante Louise Collet écrite en janvier 1847. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster un plateau qui devient le temps d'une émission, la table de Gustave Flaubert, ce monstre sacré de la littérature du 19e, dont on fête en 2021 le bicentenaire de la naissance. Flaubert, le père de Madame Bovary, Flaubert, le sédentaire attaché à la Normandie, son territoire d'écriture, Flaubert, l'écrivain acharné, artisan de la prose, capable de passer 10 heures sur une seule phrase, et Flaubert aussi, le gourmand et le gourmet, qui a fait de la table et de ses réjouissances comestibles, le lieu de son intimité normande, l'épicentre aussi de sa vie parisienne, mais aussi une source d'inspiration. Pour ses romans, on brosse aujourd'hui le portrait d'un grand homme de plumes et de fourchettes, avec deux invités qui nous arrivent tout droit de Normandie, évidemment. Yvan Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de lettres modernes à l'université de Rouen-Normandie. Vous êtes le spécialiste des manuscrits et de la correspondance de Gustave Flaubert. Et vous venez de signer l'album Gustave Flaubert dans la bibliothèque de la Pléiade. On va voir que vous êtes aussi au cœur des festivités organisées en Normandie à l'occasion de ce bicentenaire.
Oui, c'est exact. Alors, il y a 12 collectivités territoriales de la Normandie qui ont mis en place un collectif qui s'appelle Flaubert 21, qui labellise différents projets. Il y en a 200 actuellement qui vont courir depuis maintenant jusqu'à juin 2022 sur la totalité du territoire.
C'est ça.
Et au-delà. Et on peut retrouver toutes ces informations, calendrier, cartes interactives sur un site qui s'appelle flaubert21.fr, qui est le site officiel mis en place et alimenté par la région Normandie.
Plus de 150 manifestations artistiques.
On en est à 200 actuellement.
On en sera à peu près à 200. Ouais, oui. La Normandie, la région et ses départements ont fait un très gros travail. Avec nous également, Valérie Duclos, bonjour.
Bonjour.
Normande de naissance.
Absolument.
Journaliste, auteur de « À la table de Flaubert » paru en novembre dernier aux éditions de La Falaise.
Aux éditions des Falaises, il y en a plusieurs, mais c'est pas grave.
Éditions des Falaises, absolument, il y en a plusieurs, surtout en Normandie. Vous êtes arrivé avec des plats composés par des chefs du cru, des chefs normands, en hommage à Flaubert. Bon, il y en a partout sur le plateau dont on va déguster.
Je suis désolée, mais c'est une façon aussi de vous remercier de me recevoir.
Mais c'est un immense plaisir. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Elvira Masson et notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnez. Bonjour les amis.
Bonjour à toutes et
Bonjour
tous.
Bonjour à tous.
Elvira.
J'ai un point commun avec Flaubert, mais vraiment en toute modestie.
Le talent ?
Je crois pas. Ça doit être autre chose.
Ça commence fort.
Ah, je vous dirai tout à l'heure.
Un ingrédient peut-être ?
Ouais.
Petit indice. Jérôme ?
Moi aussi j'ai un point commun avec Flaubert.
Alors, c'est certainement pas le talent.
Non plus. Non, moi c'est le poids.
C'est vrai. Alors on va étudier les mensurations effectivement de notre ami Flaubert.
Et plus simplement, on va parler d'un vin qui a beaucoup de vertus.
Ah. On va voir ça avec vous tout à l'heure, solution des jeux, au milieu de cette émission. Les recettes de nos invités, nos coups de cœur, le podcast de nos émissions et le podcast de toutes nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Entamons, si vous le voulez bien, notre portrait gourmand de Gustave Flaubert. Avec cette question, je me tourne vers Yvan Leclerc. Flaubert ne serait-il pas un mangeur paradoxal ? Voici le portrait qu'on faisait dans les cahiers de la gastronomie en 2011, René Elkaïm Bollinger, l'ancienne productrice de France Culture. Je cite « Affamé et écœuré. Un air d'anorexie, un air de boulimie. Le géant se met à table, puis va vomir. Il a toujours faim et pourtant il n'en peut plus d'être repu. Dans la vie, comme dans l'œuvre, dans les réalités du quotidien et dans l'imaginaire des fictions. » Jean-Paul Sartre a évoqué cette ambivalence de Flaubert inassouvissable. une privation rugissante, comme si, en le lisant, on balançait entre ascétisme et gloutonnerie. Yvan Leclerc, vous êtes d'accord avec ce portrait ?
Oui, tout à fait. Ces oppositions-là correspondent bien à deux régimes de Flaubert. Alors, régime dans les deux sens, il y a à la fois régime alimentaire et puis, disons, un style de vie qui correspond aussi à deux lieux d'écriture, à deux lieux d'habitation. Quand il est à Croissy, il vit en solitaire avec sa mère et sa nièce qu'il élève comme si c'était sa fille.
Vous nous resituez Croissy ?
Croissy, c'est une grande propriété qu'il habite sur les bords de Seine, à quelques kilomètres en aval de Rouen. Et là, il passe son temps à écrire et du coup, il a un régime plutôt frugal. En revanche, quand il est à Paris, quand il est en voyage, ou quand il fréquente des salons littéraires ou des dîners littéraires, là, il ne mange pas, il s'empiffre. C'est le terme qu'il utilise. Flaubert est un homme excessif dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il est capable de privation, peut-être pas d'anorexie. Le terme anorexie est peut-être impropre.
Hein. D'accord.
Il n'y a pas, à mon sens, d'exemple d'anorexie chez Flaubert.
Il jeûne, on va dire.
Voilà, il y a des jeûnes, il y a une privation, mm-hmm. Et puis d'un autre côté, une sorte de surabondance. Et ça, on les retrouve aussi dans l'œuvre. Du côté de la frugalité, on aura évidemment l'ermite d'Antoine, dans La Tentation de Saint-Antoine, ou la servante Félicité, dans Un cœur simple, qui économise les miettes de pain, mm-hmm. par économie. Et puis de l'autre côté, on a l'abondance de la cuisine, de classes sociales différentes, à la fois de la paysannerie dans Madame Bovary, de la bourgeoisie et de l'aristocratie, aussi dans Madame Bovary au bal de la Vaubyessard ou dans Bouvard et Pécuchet, lorsque deux personnages sont invités chez le comte de Faverge. Mm-hmm. Et on trouve donc cette double orientation. Flaubert est très sensible à la nourriture, à la gastronomie de classe, puisqu'on ne mange pas les mêmes aliments, on ne mange pas de la même manière, et on n'a pas non plus, ce qui intéresse Flaubert, c'est le discours sur la nourriture. Et on n'a pas évidemment le même discours selon que l'on appartient à une classe sociale ou à une
Bien
autre.
Sûr, donc on va brosser justement le portrait gourmand de ce grand écrivain. Est-ce que d'abord, physiquement, sa corpulence, qui est assez imposante, donne aussi une indication sur son appétit ?
Alors il est très grand, alors je ne sais pas si ça tient à son appétit, il mesure 1m83.
Ce qui est grand pour l'époque ?
Ah oui, la moyenne calculée par Michel Vinocq, qui est l'auteur de la biographie, il a regardé la moyenne des hommes dans les registres de l'armée, parce que les femmes, on les mesurait pas officiellement, les hommes, on les mesurait, c'était 1m69. Donc en gros, Flaubert a une tête de plus que ses contemporains. Et on sait son poids...
Carrément ?
Oui, 112 kilos, il a été pesé, ou il s'est pesé, chez Georges Sand. On s'amusait beaucoup chez Georges Sand.
Au château de Nohant ?
À Nohant, absolument. Et donc ça se passe en 1873, il a 52 ans et il pèse à l'époque 112 kilos.
Ah
et
oui, ça, donc c'est... il a une certaine carrure quand même.
Oui, c'est lié à l'alimentation et à une hygiène de vie déplorable.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il passe, vous le disiez tout à l'heure, 10 heures par jour assis sur son fauteuil. Il fait une toute petite promenade, mais la promenade c'est entre la grande maison de Croissy et le pavillon de jardin qui reste encore aujourd'hui le pavillon du Bordeaux, c'est-à-dire 130 mètres. Mmh. Aller-retour, ça doit faire 260, mais il n'en fait pas plus. Et il considère que le mouvement est anti-philosophique. C'est-à-dire, il théorise le fait que, un peu comme Churchill qui disait, à qui on prête en tout cas cette citation, « no sport », ouais. Voilà, ça pourrait être aussi la citation de Flaubert.
Et ou la citation de Jean de Gagnès aussi ?
Oui, effectivement, « no sport », bien d'accord.
Yvan Leclerc, vous nous confirmez donc que chez Flaubert, écrire et manger, ou plutôt baffrer, c'est tout à fait antinomique.
Oui.
Il y a un temps pour tout.
Alors, il y a un temps pour tout. En revanche, chez lui, il y a une rêverie sur la nourriture. C'est-à-dire que quand il ne mange pas et qu'il écrit, il rêve de nourriture. C'est-à-dire qu'il y a un imaginaire de la nourriture chez Flaubert, mm-hmm. qui est évidemment qu'on retrouve dans ses œuvres. Lui-même parle de nourriture littéraire. L'expression se trouve dans une de ses lettres. Nourriture littéraire.
On va voir ça d'ailleurs, puisqu'on va évidemment aller picorer, voire baffrer dans l'œuvre abondante de Gustave Flaubert. Alors, Gustave Flaubert, indissociablement lié au terroir normand, évidemment, on pourrait dire que cet écrivain a un lien charnel à la région, à la Normandie.
Oui, il a un lien charnel, mais aussi un lien, comment dire, à travers les idées reçues. C'est-à-dire un lien très critique. Flaubert n'est pas un lyrique qui va chanter son terroir comme Georges Sand va pouvoir chanter le Berry, ou je sais pas, ou Pagnol va chanter la Provence. Hein. C'est pas exactement ça. Et quand il parle de cidre, quand il parle de pommes, c'est toujours avec une sorte de petit clin d'œil ironique. C'est-à-dire, vous m'avez vu venir. C'est-à-dire, c'est une production locale, quoi.
Quand même qu'il a utilisé une métaphore autour du cidre pour évoquer son tempérament un peu, on va dire, volcanique, pétillant ou
éruptif.
Ouais, c'est ça, éruptif.
Oui, tout à fait. Lorsqu'il dit « Je suis un barbare, j'en ai l'apathie musculaire, les langueurs nerveuses, l'irascibilité normande, tout ce que nous sommes, nous avons quelque peu de cidre dans les veines, c'est une boisson aigre et fermentée et qui quelquefois fait sauter la bonde ». Donc cette manière d'intérioriser la Normandie, pour de somatiser, pourrait-on dire, la Normandie, à travers cette production, évidemment, qui est un cliché, une réalité, mais en même temps un cliché, parce que parler de cidre, parler de pommiers, dans l'esprit en particulier des Parisiens, aujourd'hui comme à l'époque, ça évoque tout de suite la Normandie. Et Flaubert s'amuse avec cette image reçue de la Normandie.
Le jeune Flaubert grandit dans une famille aisée qui ne se prive de rien, y compris à table. On est à Rouen, je crois même que son père a un appartement de fonction à l'Hôtel Dieu de Rouen. Y a-t-il des madeleines de jeunesse concernant Gustave Flaubert, même si on n'évoque pas, là on parle pas du petit Marcel, mais plutôt de Gustave. Est-ce qu'il y a des saveurs locales qui lui ont un peu imprimé les papilles?
Oui, donc justement un souvenir qui est peut-être le premier souvenir, il a 5-6 ans et qui est en rapport avec le père. Il est amoureux d'une petite jeune fille, jusque-là tout va bien. Sauf qu'il voudrait lui donner son cœur. Il a entendu cette expression et il pense que donner son cœur, c'est donner matériellement son cœur. Comme le père est chirurgien, il a l'idée de demander à son père de lui enlever le cœur et d'aller le porter à la petite fille dont il est amoureux dans une bourriche d'huîtres.
Ah !
Pourquoi une bourriche d'huîtres ? Parce que c'est le cadeau que son père reçoit régulièrement de ses clients quand ils sont guéris et qu'ils sont contents. Et il raconte, alors ce souvenir l'a beaucoup marqué, il raconte ça à Georges Sand quand il est très âgé, il en parle aussi au Goncourt qui rapporte l'anecdote dans leur journal, et donc on peut penser que Flaubert, grand amateur d'huîtres, est probablement renvoyé à ce premier souvenir qui n'est pas un souvenir réel, qui est un souvenir imaginaire ou fantasmé. Mais donc l'huître peut jouer le rôle de la petite Madeleine de Proust.
Donc passion de Gustave Flaubert pour les fruits de mer en général et les huîtres en particulier. Il y a peut-être aussi un peu de ces vacances qu'il passait à Trouville où il a découvert les coquillages.
On Valérie peut imaginer, Duclos. Oui, tout à fait. Enfin, Yvan, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, mais on peut imaginer que c'était ses vacances à Trouville. Et puis son papa utilisait aussi une expression concernant Gustave Flaubert, c'était qu'un jour il faudrait qu'il sorte de cette huîtreraie dont il parlait. Huîtreraie, c'était Rouen, c'est-à-dire que Gustave aille voir ailleurs et voyage dans le monde.
Il est précisément, Valérie Duclos, question d'huîtres dans votre très joli ouvrage À la table de Flaubert aux éditions des Falaises, ça y est, je l'ai bien dit.
Oui, merci.
En fait, la démarche de votre livre, c'est d'avoir un peu picoré partout dans l'œuvre de Flaubert et d'avoir phosphoré, légèrement élucubré, parfois un peu extrapolé, autour justement des indices culinaires et alimentaires que vous avez trouvés. Et sur l'huître en l'occurrence, vous vous êtes entendu avec un chef local pour imaginer une recette
d'huître gratinée.
Inspirée de l'univers de Flaubert.
Absolument. Mon intention première, c'est de donner envie de lire ou de relire. Parce qu'on connaît Madame Bovary. On l'a tous bossé pour le bac de français, qu'on l'ait passé l'année dernière, il y a 10 ans ou il y a 5 ans.
C'est vrai.
Peu importe. Mais il y a des textes qu'on ne connaît pas. Et Un cœur simple, pour moi, est un des plus beaux. Et ce que je mets sur la première marche du podium, c'est sa correspondance avec Georges Sand. Mmh. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des sentiments négatifs, positifs, mais comme on pourrait
avoir. Il y a des impressions culinaires, car Georges Sand s'y connaissait aussi en la matière.
Absolument. Et l'idée de À la table de Flaubert, c'est d'extraire les intitulés gourmands et de les confier tels quels.
Oui.
À des chefs, des artisans de bouche, des restaurateurs rouennais, puisque Flaubert est né et mort à Rouen. Et les chefs, les restaurateurs, en ont fait ce qu'ils ont eu envie de faire. L'idée, c'était sortir d'écrits du 19e pour les transporter dans la gastronomie du 21e.
Voilà, vous leur avez proposé un matériau brut et à eux de légèrement cogiter autour de ces...
Exactement.
C'est ça, et la démarche est fort intéressante. Et on a justement à la page 50 cette recette d'huître chaude gratinée que vous avez confiée à un poissonnier.
Pascal Hoguel, qui a une très jolie boutique à côté de Rouen, le Grand Dauphin. Et je lui ai demandé, voilà, des huîtres. Alors les huîtres, oui, avec un peu de vinaigre, des échalotes, on connaît. Et comment on peut aller au-delà? Je ne suis pas sûre que Flaubert, à l'époque, les gratinait. Mais en tous les cas, je trouve que c'était intéressant de les retravailler comme ça pour les démocratiser.
Et comment on s'y prend? En l'occurrence, il y a des champignons de Paris, des échalotes. Donc tout cela est un peu gratiné. Si vous deviez nous expliquer la recette en quelques mots.
Champignons en duxelles qu'on fait venir à la poêle avec un petit peu de beurre, etc. et tout. Échalotes, ça parfume tout ça. On ouvre les huîtres, on enlève l'intérieur, on nettoie les huîtres, on en remet deux. On met un petit peu de cette duxelle de champignons, un peu de crème, un peu de chapelure au four.
Waouh.
Miam.
Et on les a pas sur ce plateau malheureusement.
Je n'ai pas pu.
J'en profite pour vous dire d'ailleurs que notre émission de dimanche prochain sera précisément consacrée aux champignons de Paris. Et en tout cas, la recette d'huîtres chaudes gratinées de Pascal Hoguel est à retrouver sur franceinter.fr à la page « On va déguster le poissonnier à la tête de Grand Dauphin, poissonnerie près de Rouen ». On va se retrouver pour continuer évidemment à évoquer Gustave Flaubert et surtout à se plonger dans son œuvre fondatrice, en l'occurrence Madame Bovary. C'est juste après une petite pause musicale. Laurane Thomas réalise l'émission avec Manon Houssin. Nadia Chougui nous a aidé à la préparer. Merci aussi à Stéphane Sollier, notre consultant en littérature, qui nous a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. Françoise Breut avec « Mes péchés s'accumulent ». Vous allez voir, Yvan Leclerc, qu'il y a des résonances dans les paroles que vous allez entendre avec Madame Bovary, justement. C'est même à se demander si ce n'est pas une chanson carrément bovariste. Des nourritures spirituelles et terrestres au menu dont va déguster.
Je n'ai pas attendu les jours de canicule pour sentir nos corps qui brûlent, nos langues en feu, mon prince. Mon Dieu, j'entends nos membres qui crépitent du feu de la dynamite.
On s'invite à la table de Flaubert et on en vient enfin à Madame Bovary, un véritable mythe littéraire. Vous disiez qu'effectivement tout le monde, petits et grands, l'ont étudié à l'école. Ce premier roman de Gustave Flaubert publié en 1857 qui raconte le destin de cette femme, d'un médecin de province aux relations adultères. Œuvre qui fera d'ailleurs scandale, hein, je crois, Yvan Leclerc, à sa sortie.
Oui, il a un procès pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs et à la morale religieuse. Il a 3 chefs d'inculpation contre lui.
Et il sera finalement acquitté.
Il sera acquitté, oui.
Je vous propose, pour vous mettre en appétit, d'écouter la lecture de cette scène fameuse du banquet de noces, point d'orgue du mariage d'Emma et Charles Bovary.
C'était sous le hangar de la charreterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots, et au milieu, un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles, se dressait l'eau de vie dans les carafes. Le cidre doux, en bouteille, poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table, présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de nom pareil. on avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses. Et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris.
Merci à l'ami Hervé Pochon pour cette lecture. Yvan Leclerc, avec une abondance alimentaire gastronomique folle. Ouais.
On mange beaucoup et alors Flaubert, évidemment, dans un esprit un peu rabelaisien, va insister sur la quantité quand il dit 4 aloyaux, 6 fricassés, 3 gigots, 4 andouilles. À chaque fois, il donne un chiffre pour montrer que et ça dure 16 heures. Et alors, Emma est absente. Et il faut entendre cette description à travers sa souffrance, c'est-à-dire que ça commence très mal pour elle, parce que Emma est une fille romantique, et elle rêve d'un repas de noces aristocratique et sublime, poétique. Elle voudrait se marier à minuit, à la lueur des flambeaux, et avoir des repas raffinés. Or, Flaubert va au contraire accumuler tout ce qui est lourd et consistant dans la nourriture paysanne. Donc sa désillusion commence là. Il y a une lecture réaliste, c'est-à-dire les repas que l'on peut faire en Normandie, mais en même temps, il faut le ressentir à travers la sensibilité d'Emma, évidemment, ce texte-là.
Parce que là aussi, la Normandie infuse hein, dans ces descriptions. Tout est le cidre doux, évidemment. L'eau de vie dans les carafes.
Les andouillettes.
L'andouille.
L'andouille.
L'andouille, hein, vous évoquez celle de Vire.
Oui, exactement.
J'imagine,
oui,
dans le Calvados. Et il y a une phrase qui a fait tilt dans le cerveau de Valérie Duclos.
Oui, absolument. Quand il parle de tourtes et de nougats pour lesquels ils étaient allés chercher un pâtissier à Yvetot, j'ai juste extrait tourte.
Mais oui, mais comme par magie, a atterri sur le plateau dont on va déguster une espèce d'objet brillant, blond, magnifique. Je dois dire qu'il a déjà été carrément englouti par tout le monde autour de la table. Ah non, il en reste une petite. Non, Elvira, terminée.
Ce sont des formats individuels en même temps.
Hein. Elvira, alors pour une fois, c'est pas moi qui en ai mangé le plus.
Elle est délicieuse. C'est une tourte de caille, fenouil, pomme et noisette qui a été imaginée par Olivier Da Silva, chef étoilé du restaurant L'Audace, qui se trouve juste à côté de la cathédrale de Rouen. J'ai demandé à Olivier si, comme tous les autres chefs du livre à la table de Flaubert, je lui ai confié tourte. Et il faisait ce qu'il voulait.
Carte blanche.
Je voulais qu'ils s'amusent, les chefs.
L'inspiration fut bonne.
Exactement. Elle est délicieuse,
elle
cette
est
tourte.
Délicieuse. Alors, tourte de caille, quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas cuisiner la caille parce que c'est compliqué à trouver ou qu'on préfère s'orienter vers une autre volaille, c'est possible?
On peut remplacer par de la pintade. J'irai pas jusqu'à de la volaille, parce que ce serait peut-être un petit peu grossier dans la texture. Mais là, c'est juste des filets. Donc, et puis, pourquoi pas, éventuellement, des petits magrets de canard. On peut s'amuser avec de...
Parce qu'elle est particulièrement moelleuse et fondante, et à la fois, elle a du caractère. Donc, il faut une chair qui a aussi un peu de caractère.
C'est pour ça que je veux pas vous dire on peut remplacer par de la volaille. Il faut vraiment avoir de la texture, mais c'est le fait qu'elle cuise dans la tourte, donc les deux niveaux de pâte feuilletée, c'est un peu comme en vapeur. Et puis il y a cette petite tranche de pain de mie tout en dessous de la tourte
qui apporte un peu de suavité,
exactement,
et de rondeur. Et on sent le croquant des noisettes.
Noisette, et puis on a le fenouil qui est juste coupé en fines lamelles, poêlé, beurre salé, deux secondes. Hein,
oui, il est encore un peu croquant, ça qui est
exactement.
Bien aussi.
Avec en plus de ça la pomme qui est d'une extraordinaire discrétion et à la fois elle apporte quelque chose. Il y a un équilibre dans cette tourte que j'ai rarement rencontré.
Qu'est-ce qu'en pense Yvan Leclerc? Non, il est plongé dans ses notes. Vous l'avez englouti?
Ah oui, vous l'avez carrément.
J'ai terminé mon avis, mais je ne parle pas à la bouche pleine.
Contrairement à nous autres, on nous le reproche de temps en temps. En tout cas, c'est une tourte incroyable d'un chef qui, j'imagine, participe aux festivités Flaubert 21, Olivier Da Silva, restaurateur étoilé à Rouen.
Tout à fait. Et Olivier pourra mettre cette tourte à son menu, à sa carte, au restaurant, pendant tout le temps des festivités, jusqu'à la fin de l'année. Et il y a Olivier, il y a énormément de chefs, et c'est pour ça qu'il faut venir à Rouen et en Normandie pour visiter, et puis pour aller les rencontrer, parce que je pense qu'ils ont tous besoin de nous, maintenant.
Absolument, et surtout quand ils se mettent à réinterpréter des habitudes alimentaires de Flaubert, on va se régaler cet été du côté de la Normandie, et si on tentait un accord entre cette tourte, caille, noisette, fenouil, signée Olivier Da Silva, avec... la surprise liquide de notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Oh !
Magnifique.
Est-ce que, à la maison, parce qu'on n'a pas encore révélé l'identité évidemment de cette boisson, qui est pourtant assez flaubertienne, c'est
mais
comme ça qu'on dit.
Ce n'est pas du cidre pour autant.
Oui.
Mais ce n'est pas du cidre.
Est-ce que c'est une boisson normande?
Je pense que c'est... Non, c'est pas vraiment une boisson normande. Et je crois que c'est Yvan Leclerc qui va nous donner la solution des jeux.
Ben, en fait, Flaubert est issu d'une Normande. Sa mère est originaire de Pont-l'Évêque, donc du côté du Cidre. Mm-hmm. Et de l'autre côté, son père, mais alors je vais révéler évidemment le nom, est originaire de la Champagne. Son père est champenois.
Et voilà.
Et donc nous y voilà. Je parlais de vertu, en référence évidemment au fameux village de la Côte des Blancs. Et c'était l'occasion pour moi de vous parler d'un vin que j'aime beaucoup, le champagne en général, et d'un domaine que je connais depuis un certain temps, que je fréquente de façon épisodique dans le Verre, avec toujours beaucoup de bonheur, c'est le domaine Laure et Pascal Doquet. Alors Laure et Pascal Doquet, ils sont situés à Vertu. C'est un domaine qui est pas très vaste, hein. C'est un petit domaine qui fait 8,70 hectares, pour être très précis, dont une partie sur la Côte des Blancs et puis une autre petite partie vers Vitry-le-François. Mais c'est dans ce domaine que j'ai découvert parmi les plus beaux champagnes blancs de blanc qu'il m'ait été donné de déguster. J'ai eu la chance d'en goûter pas mal, mais j'ai été frappé il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, ouais, 6-7 ans, par un vin que j'avais goûté chez eux qui s'appelle Cœur de Terroir, un grand cru du Ménil-sur-Auger qui était à l'époque un millésime 2004. Et puis, il m'est arrivé de déguster de temps en temps les vins. Et lorsque on a préparé cette émission, eh bien, je me suis dit que la Champagne me faisait tout de suite penser à Pascal Doquet. J'avais envie de parler de ce domaine. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup parce que, d'abord, ils sont passés en bio et la Champagne, c'est pas les champions du bio. Alors, il s'agit pas de dire que le bio est l'aboutissement de tout et la solution à tous les problèmes, néanmoins.
Mais ça dénote de belles intentions.
Voilà, c'est un système qui en vaut d'autres. Je pense même qu'il était peut-être un petit peu mieux. Et pour tout vous dire, en Champagne, on a aujourd'hui sur 34 000 hectares, à peu près 1150 hectares en bio. C'est pas énorme. On peut pas dire que ce soit la région qui soit le plus en pointe sur
Il y a aussi, ne les accablons pas, des raisons climatiques.
Oui, mais enfin, le Bordelais qui a les mêmes raisons climatiques, si ce n'est pire, ils sont à 12%.
Ouais, d'accord.
Donc,
ça y est, Jérôme Gagnès va se faire des avis du côté de la Champagne.
On peut toujours trouver plein d'excuses quand on veut pas faire les choses. Donc, en l'occurrence, Pascal Doquet, qui reprend le domaine en 95, et puis ensuite, il rachète les parts de toute la famille, et il est vraiment indépendant à partir de 2004. Il avait déjà commencé à enlever les désherbants, à ne plus utiliser de désherbants. Et puis, la conversion et la certification intervient en 2010. Donc, ça a été quand même relativement rapide. Et ça n'est pas une mince affaire que de convertir un vignoble en biologie. Et donc, nous avons ici affaire à une cuvée qui s'appelle Arpège. Alors, Pascal Doquet, c'est un guitariste, c'est un musicien. Et donc, il a donné aussi des noms en rapport avec la musique à ses cuvées. Arpège, c'est un pur chardonnay issu de la Côte des Blancs. Je remets un petit peu la Côte des Blancs. On a Reims, qui est l'épicentre, puis ensuite au sud il y a Épernay, et puis au sud d'Épernay on commence avec Cuy et Chouilly, puis ensuite on descend comme ça vers le sud jusqu'à Vertu, et on a cette partie-là de la Champagne qui est vraiment dédiée au chardonnay, avec un terroir bien particulier propre à ce secteur qui est la craie. Donc ce calcaire assez tendre, très blanc, dans les vins, on dit souvent c'est crayeux. Bon, alors en fait il y a une très grande finesse, une assez grande élégance. Et puis alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce vin, c'est que il y a du fruit. C'est très rare en Champagne, en fait. Le champagne est souvent aromatiquement, si ce n'est dominé, en tout cas fortement marqué par la façon dont il est élaboré, notamment sa deuxième fermentation en bouteille, qui, avec les levures, marque le vin de notes boulangères un peu pâtissières. Et bien ici, c'est le fruit des notes de poire qui viennent prendre le dessus, avec à la fois un côté d'une très grande élégance, parce que la mousse est crémeuse, elle est sensuelle, elle est évanescente, les bulles sont d'une très grande finesse, et puis cette finale interminable où on va retrouver justement le côté crayeux. Alors je sais pas si vous l'avez dégusté.
Quel bonheur.
Ça fait un accord intéressant d'ailleurs avec notre tourte.
Oui, sauf que j'en ai plus dans l'assiette, moi.
Mais... Alors moi, j'en ai gardé.
François Régis, vous avez un verre à la Flaubert, un rempliard.
Parce que... Ça s'appelle un verre de facteur. Mais voilà un très beau domaine qui fait d'autres cuvées. Alors évidemment, c'est un vin qui est à 39 €, donc on va nous dire, oh là là, c'est très très cher. Prenons deux secondes pour expliquer, dans le droit fil de l'émission que nous avons commise au début du mois d'avril, expliquer pourquoi ça vaut 39 €. Bien, tout simplement, déjà pour commencer, parce que c'est un vin qui vieillit pendant 6 ans en cave. Si on regarde les autres vignobles, aucun vigneron ne commercialise un vin qui est du millésime 2014. Surtout lorsque l'on sait que celui-là est de la base 2014, mais assemblé avec près de 50% de 2013. Donc c'est absolument considérable. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ça engendre des coûts qui sont très importants. Et puis, ben, on a là, pour moi, le plus simplement du monde, un des plus jolis blancs de blanc.
Extraordinaire, d'un équilibre.
De la Côte des Blancs. C'est un admirable domaine, avec un travail de pointe. Ils sont très discrets, on n'en entend pas beaucoup parler. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de les mettre en avant aujourd'hui, parce que, eh bien, c'est pas toujours les meilleurs dont on parle le plus.
Avec une belle sensation saline en finale.
Oui, il y a une très grande élégance, une grande fraîcheur, c'est beaucoup de délicatesse. Voilà l'archétype du blanc de blanc que l'on servira à l'apéritif pour quelque chose de raffiné et de très élégant, à un prix qui, s'il est au-dessus de la moyenne des prix en Champagne, notamment des bruts sans année, reste pour moi un excellent rapport qualité-prix-plaisir, compte tenu de la qualité du vin. 39 euros. On n'en boira peut-être pas tous les matins, c'est bien dommage parce que c'est délicieux, mais en tout cas, on pourra le servir lors d'une belle fête.
Et d'une très grande occasion.
Et d'une grande occasion, exactement.
La cuvée Arpège signée Pascal Doquet. Est-ce que cette cuvée champenoise, Yvan Leclerc, aurait plu à Gustave Flaubert ?
Probablement. Je me disais que si on visite le musée Flaubert d'histoire de la médecine, qui est la maison natale de Flaubert, on trouve sur...
À Croisset ?
Non, elle est à Rouen, celle-ci, la maison natale. C'est donc le logement de fonction du chirurgien-chef. Sur la porte de la cave, on a reproduit la liste des bouteilles qui se trouvaient dans la cave. On connaît cette liste par l'inventaire après décès du père qui meurt en 46. Et donc, il y avait 17 bouteilles de vin de champagne.
Ah,
on parlait de vin de champagne et pas de champagne tout court. Flaubert est l'un des premiers peut-être à avoir transformé vin de quelque chose en le nom tout court. Parce que dans l'éducation sentimentale, il parle de Bordeaux. Uh-huh. Et son ami Maxime Ducamp lit après lui et corrige le manuscrit. Et il dit, mais tu dis Bordeaux, mais il faudrait dire vin de Bordeaux, parce que les gens risquent de pas comprendre. Et donc, à l'époque, on ne parlait pas de champagne, mais de vin de champagne.
Tout à fait. Oui, très intéressant. Même si, attention, profitons-en pour rappeler que Gustave Flaubert est également l'auteur du Dictionnaire des idées reçues, avec pas mal d'entrées qui concernent la cuisine, la gastronomie, l'alimentation. Allez, c'est un pur bonheur, dans le Dictionnaire des idées reçues, l'entrée champagne, si vous voulez bien nous la lire, Jérôme Gagnez.
Je vais le faire avec grand plaisir. Donc pour l'entrée champagne, caractérise le dîner de cérémonie, provoque l'enthousiasme chez les petites gens. Le délire doit s'emparer des convives au moment où sautent les bouchons. On ne se connaît plus. Les amoureux malins n'en boivent jamais. Faire semblant de le détester en disant « ce n'est pas un vin ». La Russie en consomme plus que la France. C'est par lui que les idées françaises se sont répandues dans ce pays. Sous la Régence, on ne faisait pas autre chose que d'en boire. Et enfin, mais on ne le boit pas, on le sable.
Il a raison.
Oui, il a tout à fait raison.
Mais c'est d'une modernité, cette définition, elle fait écho à notre époque.
Oui, tout à fait. Et c'est du reste tout à fait en lien avec le vin qu'on vient de déguster, avec ce champagne, qui caractérise à la fois le dîner de cérémonie et qui fait que, on ne se connaît plus dès lors qu'on l'ouvre. Ça veut dire qu'il y a une légère ivresse qui nous gagne en buvant ce vin.
Une griserie.
Une très grande légèreté, une petite griserie. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le vin de champagne.
Exactement. Yvan Leclerc, la nourriture est très représentée dans ce dictionnaire des idées reçues, oui, qui finalement épingle les clichés du discours social.
Oui, pour rester sur le champagne, c'est un peu l'anti-cidre. C'est-à-dire, les deux moussent et font des bulles, mais le cidre, c'est associé à la cuisine paysanne, mm-hmm, alors que, évidemment, le champagne, c'est la cuisine aristocratique, régence dont vous parliez. Et alors, c'est intéressant de Madame Bovary, parce que le repas de noces qu'elle subit, il y a du cidre. En revanche, quand elle va voir la révélation du luxe aristocratique à la Vaubyessard, là, pour la première fois, elle déguste du champagne, et du champagne avec de la glace, qui lui laisse une sorte d'impression comme ça, tout à fait, elle frissonne en sentant ce froid dans la bouche. Et puis l'autre chose qui ressortait de la citation que vous avez lue, c'est évidemment que le champagne est lié à l'érotisme et au libertinage. C'est pas hasard si la Régence est là, et quand Emma se trouve avec Léon dans la chambre de l'hôtel à Rouen, évidemment on déguste du champagne.
Une autre définition, allez, s'il fallait choisir la définition que vous avez bien aimée dans le dictionnaire des idées reçues.
J'aime bien le vin, l'entrée vin, mais ça vous auriez pu la choisir également. Sujet de conversation entre hommes, les femmes ne boivent pas, c'est bien connu. Et le meilleur est le Bordeaux, puisque les médecins l'ordonnent.
Et alors, extraordinaire.
Le puisque est extraordinaire, parce que alors ce que Flaubert pointe dans le dictionnaire des idées reçues, c'est l'argument d'autorité, c'est-à-dire et en particulier le discours médical. C'est pas parce que les médecins le disent que c'est vrai, quoi, mais c'est présenté comme tel. Hein. Dans le dictionnaire des idées reçues, il y a toutes les phrases qu'il faut dire dans la société pour passer pour un homme convenable, qui respecte donc les convenances et les conventions. Quoi.
C'est ça. À l'entrée canard, tous viennent de Rouen. Je sais pas si c'est du chauvinisme pour la Normandie. N'est bon qu'avec des navets. Ouais. On pourrait être d'accord.
Oui, c'est un peu limitatif, un peu réducteur, mais oui, c'est vrai.
Ça, c'est aussi une autre tendance des phrases dans le dictionnaire d'Hirtius, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à la généralisation dont se moque Flaubert. C'est pas parce qu'il y a des canards rouennais que tous les canards viennent de Rouen, quoi. Et ça, c'est une forme de pensée que Flaubert considère comme évidemment marqueur de la bêtise.
Un peu syllogisme, d'ailleurs.
Il y a des canards de Rouen, donc tous les canards viennent de Rouen, oui, c'est ça.
Un faux syllogisme, oui. On va continuer notre balade dans l'œuvre de Flaubert. On va notamment bientôt passer au dessert avec des choses merveilleuses que nous a apporté également Valérie Duclos. Mais pour l'instant, on fait une petite pause musicale.
I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Don't make me say it again out loud. Big star adoring, don't worry, baby. Bipolar pride, swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time. Without drugs, without love. Total submission, I've seen a vision. Everyone's screaming, I've been daydreaming. Sorry I'm fishing without permission. Tell her I'm missing in a serpentine prison. Don't try to connect the dots anymore. Let them go, they're gonna do it on their own. Tell me that I'm not in this alone. So sorry, I don't know, I'm slow. I feel like an impersonation of you. Or am I doing another version of you doing me? Nobody's ever really thinking about us half as much as we want them to be. Total frustration, deterioration. Nationalism, another moon mission. Total submission, I've seen a vision. Call electrician, serpentine prison. Whatever it is, I try not to listen. Cold cynicism and blind nihilism. I need a vacation from intoxication. Tell her I'm missing in a serpentine prison.
C'était Matt Berninger, l'auteur, compositeur, interprète du groupe américain The National, pour son album solo avec le titre Serpentine Prison, les mœurs alimentaires de Gustave Flaubert, au menu dont va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Nous sommes en compagnie d'Yvan Leclerc, le grand spécialiste de Flaubert, universitaire, cerveau d'ailleurs d'un travail énorme, de numérisation de la correspondance de Flaubert.
Oui, c'est un accessible travail, c'est un sur travail collectif. Il y a 30 cerveaux, et en particulier le cerveau de Daniel Girard qui a beaucoup travaillé là-dessus. Mm-hmm. On a numérisé, transcrit et mis en ligne les manuscrits quand on les avait. De 7000 lettres, il y en a 4500 de Flaubert et 2500 adressés à lui. Alors l'édition de référence, c'est la Pléiade pour les notes et pour le confort de lecture en continu. Mais là, si on veut lire autrement et en particulier utiliser un moteur de recherche...
On s'est beaucoup servi de ce site pour préparer cette émission. Mmh. Évidemment, la correspondance de Flaubert, qui fut abondante, comporte énormément d'allusions et de références à la gastronomie, à la cuisine, et c'est l'occasion évidemment d'aller y faire un tour. On vous a mis toutes les références et toutes les informations sur franceinter.fr à la page On va déguster, et nous sommes également en compagnie de Valérie Duclos, auteure de À la table de Flaubert, édition des Falaises, avec de formidables recettes dont vous nous avez apporté quelques échantillons. Si vous le voulez bien, on retourne chez Madame Bovary pour une autre scène célèbre, celle du bal. Invité par le marquis d'Andervillers, Emma et Charles Bovary se rendent au château de la Vaubyessard, je prononce bien,
oui,
Yvan Leclerc,
absolument.
Pour un bal annuel, et ça commence par un dîner.
Monsieur et Madame Bovary.
Madame, Monsieur
Frédéric Robot.
À 7h, on servit le dîner, les hommes plus nombreux s'assirent à la première table dans le vestibule, et les dames à la seconde, dans la salle à manger avec le marquis et la marquise. Emma se sentit, en entrant, enveloppée par un air chaud, mélangé du parfum des fleurs et du beau linge, du fumé des viandes et de l'odeur des truffes. les bougies des candélabres allongées des flammes sur les cloches d'argent, les cristaux à facettes couverts d'une buée mate se renvoyaient des rayons pâles, des bouquets étaient en ligne sur toute la longueur de la table et dans les assiettes à large bordure, les serviettes, arrangées en manière de bonnet d'évêque, tenaient entre le bâillement de leurs deux plis chacune un petit pain de forme ovale. Les pâtes rouges des homards dépassaient les plats. De gros fruits dans les corbeilles à jour s'étageaient sur la mousse. Les cailles avaient leurs plumes, des fumées montaient et, en bas de soie, en culotte courte, en cravate blanche, en jabot grave comme un juge, le maître d'hôtel, passant entre les épaules des convives, les plats tout découpés, faisait d'un coup de sa cuillère sauter pour vous le morceau qu'on choisissait. On versa du vin de champagne à la glace. Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce froid dans sa bouche. Elle n'avait jamais vu de grenade ni mangé d'ananas. Le sucre en poudre même lui parut plus blanc et plus fin qu'ailleurs. Les dames, ensuite, montèrent dans leur chambre s'apprêter pour le bal.
Le bal auquel participent Charles et Emma Bovary, alors autant dans l'extrait précédent sur leur repas de noces, qui était plutôt d'extraction paysanne, on va dire, là on monte carrément d'un cran dans le luxe gastronomique avec notamment l'apparition de beaucoup de d'ingrédients qui peuvent nous paraître un peu familiers aujourd'hui, mais qui étaient vraiment très exotiques à l'époque. La grenade, l'ananas.
On monte d'un cran et même de deux crans, parce qu'on part de la paysannerie, on saute par-dessus la bourgeoisie et on arrive dans l'aristocratie. Là. Alors Emma a rêvé, évidemment, à travers ses lectures romantiques, à travers les images qu'elle a pu voir de l'aristocratie. Et là, elle se rend compte que ça existe. Elle fait l'expérience de l'aristocratie à travers à la fois les mérards, elle n'avait jamais vu d'ananas, mais aussi les manières de servir. Il y a une mise en scène comme ça avec les gens qui servent autour d'elle. Elle est au théâtre. Elle est au théâtre et la gastronomie sert ici la réalisation de ses fantasmes en fait. Elle en a toujours rêvé et voilà que ça se réalise pour elle.
Très bien, on va redescendre d'un cran avec la spécialité dont nous parle tout de suite Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Elvira fait aujourd'hui dans la simplicité et aussi un peu l'exotisme.
Oui, exactement. Alors j'évoquais le point commun que j'aurais pu avoir avec Flaubert, qui n'est donc ni le talent ni la corpulence.
Ça c'est sûr.
Mais un goût certain, voire immodéré pour les œufs. Alors immodéré, c'est plutôt dans mon cas parce que je m'avance un peu pour ce qui est de Flaubert. On sait, car on en trouve la trace dans les souvenirs que sa nièce aurait partagés, qu'il aimait manger les œufs d'une certaine ferme. Je me tourne vers vous, Yvan. C'était la ferme attenante ou la ferme qui faisait partie de la propriété de Croisset?
Oui, la propriété de Croisset était immense. Elle faisait 3 hectares qui s'étiraient le long de la Seine. Et dans cette propriété, donc il y avait cette grande maison où Flaubert habitait. À côté, il y avait une ferme. Donc, il mangeait les œufs de la ferme et les légumes du jardin potager. Il y avait un jardinier. Il y avait un fermier et un jardinier attachés donc à la domesticité de la grande maison.
Donc il se régalait avec ses œufs et par ailleurs on lui doit, je me permets de citer encore un petit extrait du dictionnaire des idées reçues, une définition de l'œuf, je le cite, « point de départ pour une dissertation philosophique sur la jeunesse des êtres ». Ce sera donc l'objet de ma chronique.
Extraordinaire, merveilleux.
Je vous rassure, j'en suis pas là. En 1847, avec son ami Maxime Ducamp, Flaubert part de Paris vers l'ouest pour un voyage de plusieurs semaines, à pied, en diligence, en canot, entre Vannes et Fougères. Mmh. Le récit publié sous le titre « Nous allions à l'aventure par les champs et par les grèves » se lit aujourd'hui toujours comme un guide de voyage, on dirait du slow travel aujourd'hui, qui conduit notamment Flaubert et son ami jusqu'à Laugeau, petit port arrondi autour du Nance à sable jaune. Bref, dans ce petit port, l'écrivain et son ami s'attablent dans une auberge pour manger une omelette au lard. Et dans votre livre, Valérie Duclos, cette omelette au lard devient omelette aux herbes, faite avec donc des herbes diverses, de la ciboulette, de la coriandre, de la crème, du sel et du poivre. Une omelette toute simple, une omelette roulée, comme souvent dans la cuisine classique française. Comme le pratique aussi l'omelette roulée, la cuisine japonaise, le tamagoyaki avec ses fines couches d'omelettes successives. La coriandre de cette omelette de votre livre, Valérie, et les herbes en général, on les retrouve dans ce que je vous ai apporté aujourd'hui, qui n'a rien de très flaubertien, quoique ça pourrait être une omelette au vert, tout simplement.
Faites passer, s'il vous plaît. Alors, il faut décrire une espèce de galette un peu épaisse,
comme
très,
un gâteau.
Très verte.
Oui,
comme
très
un gâteau.
Verte.
Un gâteau. Splendide. J'en
très
prends,
vert de ce côté-ci.
Une petite part et je fais passer.
Si vous la retournez, elle est plutôt dorée.
C'est vrai, carrément.
Et elle est bourrée d'herbes, effectivement. De coriandre, donc, de persil plat et d'aneth. L'aneth peut vous donner une indication de la provenance de cette recette. Et ce n'est pas la Suède, pour une fois.
Oui, c'est compliqué parce que l'aneth, c'est aussi bien une passion du nord de l'Europe que de l'Orient.
Et bien voilà. Quel pays, quelle grande gastronomie
la Perse.
Méconnue.
Enfin,
voilà.
L'Iran.
L'Iran. L'Iran est un pays
j'ai pas du tout triché.
Dont la cuisine est finalement assez peu épicée, mais très très herbacée. Cette omelette que je vous ai apportée, ou plutôt cette espèce d'épaisse galette d'œufs aux herbes, est un koukou sabzi.
Koukou sabzi.
Koukou sabzi, c'est une recette archi connue en Iran. On le mange traditionnellement le 21 mars, lors de la fête de Nowruz, le nouvel an du calendrier persan. Alors il existe toutes sortes de koukous en Iran. Le koukou sib zamini aux pommes de terre, le koukou morgue au poulet, le koukou badejnam aux aubergines. Et ce koukou sabzi, je l'adore parce qu'il fait partie de la grande famille des omelettes non roulées, non repliées, donc moins technique, des omelettes ouvertes qui vont de la frittata italienne en passant par l'igé que l'on mange à la table palestinienne. Et en poussant un peu, on pourrait penser un peu au crespé ou provençal, qui est souvent un gâteau fait d'omelettes successives ouvertes. Il y a un côté un peu crespé dans cette recette. Alors c'est une des choses que je préfère au monde, d'abord parce que c'est archi simple à préparer et parce que c'est le meilleur moyen de ne pas gaspiller tout ce qui menace de faire un peu la tête dans le bac à légumes. On cuit à la poêle la garniture, on bat les œufs, et on les verse sur les herbes ou les légumes qui menaçaient de se perdre dans le réfrigérateur. Ça cuit, et voilà, pas besoin de replier, pas besoin de rouler. On retourne pas. Moi, j'aime bien présenter les omelettes comme ça, ouvertes, les frittatas, sans les retourner. Je les trouve plutôt plus jolies du côté vert. Pour ce koukou sabzi, j'ai procédé en m'inspirant de deux livres que j'aime beaucoup et que je consulte très souvent, signés par deux femmes. La cuisine perse de Neda Afrachi aux éditions de La Martinière et Persiana, dont j'ai déjà parlé ici, de Sabrina Gayour, édité chez Hachette Pratique, et qui chacune livre leur recette du koukou sabzi. J'ai mixé un peu les deux recettes. J'y ai mis 6 œufs, j'y ai mis un poireau, j'ai mis du curcuma, un oignon, un tout petit peu de curry qui n'a rien à faire là, mais je trouvais que c'était pas mal. J'ai mis un peu de sauce tamari, celle qu'on a évoquée dans une précédente émission.
Très bonne idée.
Tamari koura, fabriqué en Bourgogne, sans aucun gros mot à l'intérieur. Ça m'a paru bien aussi, même si évidemment ça n'a rien d'iranien. Il y a une petite cuillère à soupe de farine. En fonction des textes que l'on trouve, il peut y avoir un petit peu de levure chimique, il peut y avoir un petit peu d'une matière type yaourt, fromage blanc. Et j'ai mis surtout de l'épine vinette, qui est cette petite baie typique de la cuisine persane, qui a cette saveur comme ça, un peu d'érelle. Mmh. C'est drôle parce qu'il y a des points communs entre l'aneth en Scandinavie et en Iran, et on trouve également une baie qui ressemble à l'érelle scandinave. On peut mettre des noix, c'est très iranien aussi, j'en avais pas donc j'en ai pas mis. Et puis on fait cuire ça dans un moule à gâteau, un peu huilé, au four, ça se cuit au four.
C'est splendide.
Et c'est tout bête.
C'est splendide, je promets à cette recette un grand succès. Je sais pas si vous avez remarqué, mon voisin de droite, Jérôme Gagnès, a totalement snobé cette recette. Vous nous en avez expliqué la raison?
Pas du tout, je l'ai mangé, j'ai trouvé ça délicieux.
Non, il n'y a pas un petit problème avec une certaine herbe aromatique?
Non, mais c'était...
Non, en fait, j'aime bien la
La coriandre.
Si. Non, il y a de la coriandre.
Non, on la sent pas.
Ah. Persil,
on la sent très peu. Et je disais justement à Elvira que je revenais à l'aneth progressivement après m'en être longuement écarté.
Jérôme Gagnès ouvre son esprit.
Et je trouve que c'est absolument délicieux. Et on faisait la réflexion avec Elvira qu'accompagnée d'une petite salade bien vinaigrée et un peu moutardée, ce serait absolument un dîner du dimanche soir.
Exactement.
Absolument parfait.
C'est vraiment génial.
De l'omelette aux herbes à la Flaubert.
J'en fais demain ou après-demain ou cette semaine. Vraiment, bravo. Allez, on passe au dessert avec Valérie Duclos. Lequel avez-vous choisi? Et ce choix n'est pas innocent.
En fait, j'en ai ramené deux. Alors, j'ai ramené d'abord des mirlitons, le boulanger et Moff, meilleur ouvrier de France. Il est place du marché à Rouen. Mirliton, c'est une petite pâte feuilletée avec un appareil basique de farine, sucre, œufs, crème. C'est que du bon, mais c'est très très doux. Je trouve que c'est un peu une madeleine. Ça pourrait être
c'est
la madeleine de
Gustave. Texture entre une madeleine et un financier un
exactement,
petit peu. C'est très moelleux,
c'est
très fondant.
Assez vanillé,
c'est
hein.
C'est très très maternel. Mmh. Je trouve que c'est très maternel.
Avec une belle vanille.
Allez, j'en reprends un. Donc je les ai récupérés chez Christophe ce matin avant de venir vous rejoindre. Et puis j'ai aussi récupéré une tarte aux pommes, pommes noisettes chez Benoît Vatelier. Benoît Vatelier, il a une shop à Rouen mais surtout à Quincampoix, une très jolie boutique un peu à la campagne. Et la tarte aux pommes fait partie des recettes sucrées que j'ai mis dans l'ouvrage parce que Flaubert fait beaucoup d'évocations. Pommes, pommiers, cidre, etc.
Évidemment.
On est en Normandie, c'est quand même un des symboles de la gastronomie normande. Donc je vous ai ramené cette tarte qui est aussi assez facile à réaliser.
Ah bon ?
Elle est technique hein, quand même, non ?
Non, parce que c'est...
C'est somptueux en tout cas.
Elle est
admirable, non Jérôme ?
Bah, c'est pour moi, c'est... Non, mais c'est le summum de ce qu'on pourrait appeler la tarte normande.
Noisettes, pommes, c'est facile à réaliser. Il y a un goût d'amande. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Qu'on peut retrouver donc chez Vatelier.
Elle est exceptionnelle. Ah, oui. Benoît, je ne vous connais pas, mais c'est...
Précipité, mais vous gagnez à être connu.
Est absolument admirable.
Ah ouais.
Cette pâte est somptueuse. Ah oui. Elle est beurrée, friable, un peu salée, noisetée. C'est du délire. Hein.
Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup pour ces cadeaux gourmands. Yvan Leclerc, on ne pourrait pas évidemment faire une émission sur la table de Gustave Flaubert sans évoquer une pâtisserie célèbre dans le patrimoine français qui porte le nom d'une œuvre de Flaubert. Vous voyez de quoi je veux parler ?
Ben oui, Madame Bovary a donné le bovarisme et Salambeau a donné le Salambeau. Oui.
C'est ça, vous pouvez nous appeler Salambeau, s'il vous plaît ?
Alors, Salambeau, Flaubert demandait à son éditeur de faire très attention d'écrire avec deux M, parce qu'il voulait qu'on prononce Salambeau.
Salambeau.
Mais comme tout le monde prononce Salambeau, maintenant quand on voit un Salambeau chez un pâtissier, ça s'écrit avec un seul M et sans accent circonflexe. Accent circonflexe auquel Flaubert tenait beaucoup parce qu'il trouvait que ça faisait carthaginois. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, il tenait beaucoup. Alors maintenant, c'est un peu simplifié. Alors, le roman paraît en novembre 62, et on a une trace écrite irréfutable, c'est qu'en mars 63, donc quoi, 5 mois après, une lettre du copain Maxime Ducamp, qui lui est à Paris, qui écrit à Flaubert en Normandie, qui lui dit, la mère Husson, c'est sa maîtresse, mais quand il dit la mère, c'est affectueux, hein, c'est pas méprisant. La mère Husson, qui me parle souvent de toi, va bien, elle t'envoie ses meilleures tendresses, et va souvent, en souvenir de toi, manger chez Boissier, un nouveau petit four à la crème qu'on appelle des Salambeaux. Alors Boissier, c'était un confiseur, pâtissier très célèbre à l'époque et qui recevait la haute bourgeoisie impériale. Et donc, qui avait le sens du commerce et qui prenait le vent des productions culturelles pour créer une confiserie ou une pâtisserie liée à quelque chose d'important. Et donc Salambeau ayant du succès, en particulier à la cour impériale, il va créer cette pâtisserie qu'on appelle le Salambeau. Le décor était fait de pistaches hachées, disposées aux deux bouts du Salambeau et glacées au caramel.
C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, la définition du Salambeau, qu'on peut aussi appeler gland, c'est un gros chou en forme de gland avec un glaçage plutôt de couleur verte, des paillettes de chocolat et un fourrage crème pâtissière.
Au rhum en général, non ?
Ou au kirsch, il y a un peu débat. Boissier a toujours pignon sur rue à Paris, dans le 7e arrondissement et dans le 16e arrondissement notamment. Malheureusement, c'est devenu un chocolatier, ils font plus le Salambeau. Mmh. Faudrait peut-être leur demander de s'y remettre.
Oui, peut-être. Et puis ce qu'on pense faire avec Flaubert 21, c'est demander aux pâtissiers de Rouen et de la Normandie, mais du coup peut-être d'ailleurs, de mettre un petit étiquette à côté du Salambeau en disant ça a un rapport avec le roman de Flaubert.
C'est
parce
ça.
Que du coup, on a perdu la tâche d'origine.
Mais est-ce que vous savez si vos amis pâtissiers, par exemple Valérie Duclos, ont décidé aussi de mettre à l'honneur le Salambeau dans leur pâtisserie normande ?
Parmi toutes les opérations de Flaubert 21 mises en place par le département et la région, il y a les pâtissiers de Yvetot vont créer ou remanier certaines pâtisseries pour les mettre à la sauce Flaubert.
Alors Yvetot, parce que c'est de là que venait le pâtissier qui confectionne la pièce montée dans le repas de noces de Madame Bovary.
Voilà, et cette tourte et ses nougats, et la boucle est bouclée. Un immense merci, on aurait pu évoquer bien d'autres choses concernant un tel monument de la littérature. Flaubert 21, le bicentenaire de la naissance de Flaubert, est donc fêté dans le département de la Seine-Maritime, mais également dans toute la région Normandie, jusqu'en juin 2022. Hein. Ça dure vraiment pendant un an. Il y a 150 manifestations, des expositions, des menus de restaurants. Vous en parliez, Valérie Duclos. Également une appli à télécharger. On vous a mis le lien sur le site internet. Et puis aussi une littérature abondante. Alors, il y a votre livre à la table de Flaubert, Valérie Duclos. Il y a également votre livre, Yvan Leclerc, Gustave Flaubert, l'album à la bibliothèque de la Pléiade, mais également un très joli bouquin qui nous a servi de source pour cette émission. Flaubert, itinéraire d'un écrivain normand chez Gallimard de Stéphanie Dor-Croulet.
Qui est fait en collaboration avec le département de la Seine-Maritime.
Et un livre que vous avez préfacé, La Normandie de Flaubert, aux éditions des Falaises. La semaine prochaine, je vous le disais, le champignon de Paris au menu dont on va déguster avec la chef Léa Floriot, Zazie Tavitian et Éric Morin seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Merci à tous, à bientôt et à dimanche prochain si vous avez encore faim.